Bonjour à tout le monde. Nous sommes joyeux, nous sommes contents encore une fois pour cette occasion. J'étais ici il y a 2 semaines. Dieu aussi nous a donné ce privilège pour aujourd'hui encore une fois pour continuer à partager sa parole. C'est un privilège. Que Dieu vous bénisse. Nous saluons aussi les gens qui nous suivent sur Zoom. Que Dieu vous bénisse pour votre temps que vous prenez, que vous passez derrière les caméras. C'est pas des fois évident, mais que Dieu vraiment vous comble, que Dieu vous donne tout ce dont vos cœurs ont besoin. Amen. Alors, nous allons poursuivre avec la prédication. Je dirais, c'est la suite de ce que nous avons vu il y a 2 semaines, comme je le disais. Dernièrement, nous avons eu à traiter sur le sujet de la prière. Vous savez que c'est le grand sujet que nous sommes en train de traiter durant, je dirais, plusieurs semaines, depuis plusieurs semaines. Alors, ma dernière prédication, mon dernier partage, c'était par rapport, bien sûr, à la prière, là où nous avons dit que la prière est comme une arme silencieuse, mais pourtant puissante. C'était ça, je pense, si je ne m'abuse pas, c'était ça le thème de... Merci. C'était ça le thème de la dernière fois. Nous avons pu discuter par rapport à cette arme, pourquoi on l'avait appelée arme silencieuse. Parce que nous avons vu des choses que la prière fait, mais de façon silencieuse. Mais à la fin, nous trouvons, nous voyons les exploits, les miracles qui sont faits. Alors que la prière, lorsqu'il a été faite, des fois, on ne savait même pas qui l'a faite. On ne sait même pas quand elle a été faite, mais nous voyons. Les miracles se font, se produisent. Nous voyons les réponses arriver sans toutefois à même savoir quand est-ce que cette prière a été faite. Donc, nous avons, c'est pour cela que nous disions que c'était une prière vraiment, c'était comme une arme silencieuse, mais qui fait des grandes choses. Nous avons donné des exemples par rapport à ce sujet. Nous avons vu que la prière guérit les malades. La prière guérit les malades, c'est Jacques qui l'a dit dans son livre où il disait que la prière qui est fait, dans la prière efficace qui est faite par un juste de façon consistante, de façon persévérante. Il produit des grandes choses, il guérit les malades. Nous avons vu aussi comment la prière peut ouvrir les portes fermées. Ici, nous avons donné le cas de Pierre, car on l'a mis en prison et que le reste de l'assemblée se sont mis à prier, à intercéder pour le frère Pierre. Nous avons vu comment, pendant la nuit, la prière a fait quelque chose d'extraordinaire. Alors que Pierre était emprisonné, je dirais, était dans la chambre. Après, là, il y avait plusieurs portes pour ne pas pouvoir échapper. Mais à cause de la prière des membres, à cause de la prière des frères et sœurs, toutes ces chaînes-là, tous ces cadenas, je ne sais pas, les outils qu'ils avaient utilisés pour fermer les portes, même les chaînes qui liaient les pieds de Pierre, se sont déchaînées. Se sont déchaînées. La Bible nous dit que lui, il pense qu'il était un rêve. Il pense que c'était une vision. Mais l'ange l'a transporté, a même l'a sorti jusqu'à l'extérieur. C'est là qu'il s'est rendu compte que c'était pas une vision, c'était pas un rêve, c'était vrai. Amen. Lui, il ne savait pas. Il ne savait pas qu'il y avait le monde qui priait pour lui. Mais la prière des croyants ont fait de grandes choses dans le milieu spirituel et les portes ont été ouvertes. Nous avons vu aussi que la prière donne accès partout. Nous avons dit que la prière n'a pas besoin vraiment d'autorisation d'arriver ou bien d'entrer dans n'importe quelle place. Donc, il n'a pas besoin d'accès. Nous avons pris le cas d'Esther. Esther qui était dans la communauté juive, et qui était la communauté avait été, je dirais, condamnée à mourir, tous. C'est l'histoire que vous pouvez trouver dans le livre d'Esther. C'est là, mais nous avons vu comment ils ont mobilisé les gens, tous les Juifs, tous les Israélites, ils se sont mobilisés pour prier pendant 3 jours. Parce que la loi disait que si tu te présentes, même si tu es femme du roi, tu es la reine, mais il ne fallait pas vraiment se présenter devant le roi sans invitation. Alors comme c'était dans le cas urgent, Esther a demandé à mobiliser ses compatriotes de prier parce qu'il allait faire quelque chose d'inhabituel. Alors, ils ont prié. Nous avons vu comment il a été bien accueilli, comme s'il avait l'invitation. Et cette prière qu'ils ont faite a détruit tout le plan qui avait été fait pour les détruire. Tout a été anéanti. Et je dirais que le jugement qui avait été mis sur eux, il a été mis sur la partie adversaire. Donc ça, c'est l'histoire que vous pouvez lire dans ce livre, mais c'est intéressant de voir comment la prière a fait ces choses. Nous avons vu aussi que la prière débloque nos réponses. C'est le cas de Daniel, qui a demandé, qui a prié, mais la Bible nous dit que oui, les réponses ont été livrées, mais les esprits de ténèbres l'ont arrêté. Il a prié, il a continué à prier, il a continué à intercéder. Il n'a pas cessé. Il s'est pas senti fatigué. Il a continué parce qu'il avait foi que Dieu va refaire. Et c'est à la fin que l'ange Michael est venu débloquer à cause de la prière. Amen. Donc, la prière a fait que Daniel reçoive ses réponses. Donc, la réponse, la prière débloque. Ce n'est pas seulement Daniel, même si je vous demande, ou moi aussi dans mon cas, je vous dirai peut-être là où un jour, j'ai vu les portes ouvertes à cause de la prière, alors que moi, je n'avais pas ces moyens de pouvoir arriver, de pouvoir accéder à ces choses. Nous avons aussi dit que ça a anéanti les plans de l'ennemi. Nous avons vu comment, même l'exemple d'Esther que je viens de vous raconter, tout ce qu'ils avaient planifié contre le peuple d'Israël, ça retournait contre eux. Et la prière, dernière chose que nous avons vu qu'il rend possible l'impossible. Ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Amen. La prière, c'est la seule chose qui rend possible l'impossible. Alors, pour aujourd'hui, le thème, je l'ai intitulé, je l'ai appelé Réveillons-nous et prions. Suite à ce partage que nous avons eu, aujourd'hui, nous allons continuer, je dirais, nous allons compléter ce partage par celui-ci qui dit Réveillons-nous et prions. L'ennemi ou bien l'adversaire qui est Satan, il connaît bien quelle arme, que nous utilisons pour le détruire. Il sait la puissance de la prière. Il le sait bien. Il sait que tous les plats qu'il peut faire, tout, je dirais, les stratégies qu'il peut utiliser, quand la prière arrive, tout est détruit. Il sait bien. Alors, lui aussi, il essaie à tous les jours de nous enlever cette arme que nous avons, cette arme plus importante que nous avons. Il essaie à tous les jours de nous enlever cette capacité de l'utiliser de façon efficace. En fait, c'est ça le résumé, je dirais, de la prédication d'aujourd'hui. Vu que l'ennemi est toujours derrière nous, en train de vouloir nous arracher, nous enlever cette arme précieuse qui nous a été donnée, alors, ce n'est pas le moment de nous endormir, mais c'est le moment de nous réveiller et de prier et de prendre encore une fois cette arme pour l'utiliser de façon efficace. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Luc. C'est un passage qu'on peut trouver dans les trois évangiles, sinon les quatre. Luc 22, à partir du verset 39 jusqu'à 46. Luc 22, 39 à 46.
Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Levez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Amen.
Amen. Amen. Alors, c'est ce passage qui m'a donné et ce titre que nous avons qui dit Réveillons-nous et prions. C'est Jésus qui a dit ça à ses disciples. Ici, c'était dans ces derniers jours, je dirais même son temps où il a été arrêté. Un peu avant qu'il soit arrêté, il a pris, il est sorti comme on l'a lu, il est sorti avec ses disciples, il est parti parce que il voyait, même si les autres ne le voyaient pas, mais lui voyait tout ce qu'il attend devant lui. Et puis, comme on va le voir un peu plus tard, la chair est faible. Il voyait je dirais, la maltraitance qu'il allait avoir, tout le fardeau qu'il allait porter. Donc, dans la chair, c'était pour lui difficile, c'était dur. Alors, comme il savait que la prière, c'est quelque chose, la prière, c'est quelque chose qui peut le booster, qui peut lui donner la force, qui peut. Je dirais le dépasser. Sur cette montagne, il est parti comme il avait l'habitude de le faire. Il s'en alla prier avec ses disciples. Mais la Bible nous dit qu'ils ne sont pas partis à la même place. Il les a laissés un peu derrière. Lui, il avança un peu. Il a fait sa prière. Mais il a dû, avant de laisser les disciples, il leur dit, priez. En fait, que vous ne tombiez pas dans les tentations. Priez. Il s'en va. Il va prier. Mais du coup, la Bible nous dit que les autres sont tombés endormis. Quand il a fini faire sa prière, il est revenu. Du coup, il a trouvé les gens en train de somnoler dans profondément vraiment endormi. Cela, au verset 46, il lui demanda: pourquoi dormez-vous l'air d'être debout et priez pour ne pas céder à la tentation? Mais attention, la Bible a dit quelque chose. Il dit qu'ils étaient accablés de tristesse. Ils étaient endormis parce que selon ce que le Seigneur avait raconté, et il voyait aussi que la situation changeait de plus en plus, et ils étaient accablés de tristesse. C'est pour cela qu'ils se sont endormis. Alors que c'était le moment de prier, c'était le moment de prendre cette arme-là, cette arme qu'ils allaient utiliser pour pouvoir peut-être même vaincre l'ennemi. Mais ils sont tombés endormis. Alors, dans ce passage, tirer beaucoup de leçons en tant que aussi croyant, disciple de Jésus. La même phrase, la même demande que Jésus a fait à ses disciples en disant: mettez-vous debout et priez pour ne pas céder à la tentation. C'est la même recommandation, c'est la même phrase que Jésus nous adresse ce matin. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous faut à endormir? Qu'est-ce qui nous rend endormis? Parce que même si nous sommes ici, mais Jésus peut nous voir endormis. Pourquoi peut-il nous adresser les pareils mots, les pareilles paroles à nous? C'est ça que nous allons voir, pourquoi nous sommes de temps en temps endormis, alors que c'était le moment de nous relever et de prendre nos armes et être prêts à combattre. J'ai donné trois principales barrières qui rendent notre prière, qui rendent notre prière inefficace. Les trois barrières, les principaux, il y en a beaucoup, mais les principaux barrières qui font que notre prière des fois soit inefficace. Ça fait partie des choses même qui peuvent nous endormir. Nous allons voir que parmi ces trois principales barrières, il y en a beaucoup de choses dedans qui nous font endormir et qui rendent notre arme inefficace alors que normalement elle est efficace. J'ai donné trois points. Vous savez, nous le disons souvent que nous avons les trois ennemis qui est Satan et aussi la chair. La chair et le monde. Comment ces trois points sont-ils les barrières à notre prière? Comment cela nous empêche des fois d'utiliser la prière comme une arme efficace qui devrait nous aider à vaincre, à remporter la victoire contre l'ennemi qui est Satan? Comme la Bible comme nous l'avons lu, même Jésus lui-même étant dans la chair, il a bien dit que la chair est faible. Devant la situation difficile, le corps, la chair est faible. Oui. Comment alors la chair peut nous empêcher de prier? Comment la chair peut nous être une barrière pour faire la prière? Vous le savez, je ne sais pas si vous ça ne vous arrive pas, mais il y a plusieurs, je dirais, beaucoup de fois, nous pouvons avoir un bon objectif, un bon plan de faire la prière. Mais le corps, la chair, parce qu'elle est faible, elle va te dire que ce n'est pas le bon moment. Il va te proposer d'autres choses à faire à la place. Il va même te dire que ça serait mieux demain. Je ne vais pas donner l'exemple à quelqu'un d'autre. Moi, ça m'arrive des fois, j'organise, je me dis, je vais faire une journée de prière, surtout et de jeûne. Quand on ajoute jeûne, parce que la Bible nous témoigne que la prière de jeûne et de prière, c'est quelque chose. La prière en soi, c'est efficace, mais quand on ajoute le jeûne, ça la rend plus efficace. Satan le sait bien. Il sait qu'une fois que tu vas prendre ton temps, s'agenouiller devant le Seigneur, lire la Bible, tu vas sortir vraiment brillant. Tu vas sortir vraiment à entrer, bien entraîné. Comme un soldat, tu viens de la formation, de l'entraînement. Tu se prépares à combattre. L'ennemi, c'est blessant. C'est pourquoi il va utiliser notre chair. Il va nous dire, il va nous rendre fatigués. Tu vas te sentir fatigué. Tu vas même avoir la, tu vas ça, tu vas avoir la faim que tu n'as jamais eu avant. Moi, plusieurs fois que j'essaie de prendre le jeûne, c'est un combat. Parce que d'habitude, je ne prends pas le petit déjeuner, je mange pas la journée. Je mange pas beaucoup. Mais c'est comme si une fois que j'ai préparé, j'ai organisé la journée de prière, j'ai envie de manger même depuis que je me lève vers le matin au riz. Donc ça me montre, ou bien ça vous montre que donc c'est quelque chose que l'ennemi utilise pour nous combattre. Oui, il utilise notre chair, la faiblesse de notre chair pour nous enlever quelque chose d'important que nous allions avoir une fois que nous serions dans la prière. On peut donner l'exemple, la Bible en parle beaucoup, on peut trouver d'autres exemples où la chair est vraiment la barrière pour tailler notre arme qui est la prière. Il y a l'ennemi aussi, Satan. C'est vrai que on ne va pas attendre entendre la voix en tant que tel, mais il va passer à travers nos idées. Oui, il va tu organises la prière, tu vas avoir d'autres idées, tu vas te dire mais non, est-ce que vraiment c'est le bon moment, est-ce que il y a d'autres choses que tu devrais faire au travail. Il y a des... Donc, tu commences à te rappeler des choses que tu n'as pas fait. Donc, il te dit que ça peut être priorité. Après la prière, Dieu t'aime, Dieu nous aime. Et tu vas même prier à midi quand tu vas manger ou bien dormir. Donc, c'est comme ça que l'ennemi travaille. Il va attaquer nos idées. À un moment donné, il va nous convaincre. Mais il fait quelque chose vraiment de très important ou bien très mauvais pour nous parce qu'il nous arrive le moment que nous allions avoir avec le Seigneur, la connexion que nous allions avoir avec le Seigneur. Vous savez que la prière, normalement, c'est la communication, c'est la façon de nous connecter avec Dieu. Alors, il nous arrive de temps en temps, en mettant en avant d'autres choses qui, même, peut-être pas très important. Mais à ce moment, il va te montrer que c'est ça qui est très important. Il faut commencer par ça et la prière vient après. C'est comme ça que Satan fonctionne. Le monde dans lequel nous vivons, oui, le monde aussi est un vrai. Est une barrière pour notre prière, nos prières, pour faire nos prières régulièrement. Vous voyez comment le monde, on dit qu'aujourd'hui, Le monde a changé vraiment le système du monde va vite. Donc, ça va vite. Des fois, le monde va te montrer que, ah, mais toi, si tu vas pas à grande vitesse, tu risques de te perdre. Tu risques de rester. Il va te montrer tout ce que les autres, oui, à cause qu'ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et parce que peut-être, ils ont travaillé, ils ont fait deux boulots, ils ont beaucoup, beaucoup de choses qu'ils vont te montrer. Et il va t'inciter aussi à faire la même chose. Il va t'inciter à faire la même chose. Et plus le monde nous invite, ou bien nous implique dans son système, plus il nous arrive dans le système spirituel. Parce que le temps, ici je vais parler de la notion du temps, le temps que nous investissons. Moi-même, je vois comment je travaille. Le temps que j'investis à travailler. Je ne veux pas empêcher, je vous empêcher de travailler. Mais il faut quand même faire une petite analyse. Le temps que nous investissons à travailler, je dirais, on ne peut pas le comparer au temps que nous investissons dans la prière. Si on compare ça va être vraiment, comment dirais-je? Je ne sais pas quel signe on va. Je ne sais pas quelle comparaison on va faire, mais c'est incomparable. C'est vraiment inégal. Parce que le monde, il a sa stratégie de nous inviter, de nous tirer vers lui, de nous montrer que c'est nécessaire, ce qu'il nous montre, c'est important pour que la vie avance, la vie continue. Il te montre que si tu ne vas pas comme ça ne va pas aller. Oui, je vous donne un exemple, mon exemple à moi. Vous savez, quand des fois on est même un peu partout, on a besoin d'un abri, on a besoin de logement à toi, mais. J'ai constaté que quand tu achètes une maison, c'est comme si tu étais au-dessus d'une fossée. Je ne vous empêche pas d'acheter une maison, hein. C'est bon. Mais c'est comme si tu t'enfonces un peu, plus qu'avant. Parce que ça vient avec beaucoup d'autres responsabilités. Ça va venir avec beaucoup d'autres choses que tu ne pensais même pas. Alors, une fois que oui, nous avons acheté, je m'excuse, c'est passé un exemple. Il y a d'autres choses. C'est un exemple, ce n'est pas pour vous dire qu'on ne doit pas acheter des maisons, mais c'est pour vous dire comment le monde, oui, des fois, il nous présente des choses qui est nécessaire de faire, mais peut-être qu'il y avait d'autres moyens à échapper bien à le faire, à même pas faire. Et nous investir dans la prière, dans le royaume. Alors, quand il t'attire, disons, il te donne cette maison, après il te donne une voiture, il te donne d'autres choses, à un moment donné, tu vas te retrouver, même le temps que tu allais utiliser pour faire la prière, je vais vous donner l'exemple chez moi. Il va te montrer que le gazon a grandi, que bientôt ça va causer des insectes, des choses comme ça. Puis tu vas couper le gazon, alors que peut-être tu allais prendre ce petit moment pour prier. Donc, je vais vous montrer, je donne cet exemple pour vous montrer comment le monde aussi a des choses qui nous attirent. Une fois que nous allons un peu partout, là, le temps d'être avec le Seigneur diminue de plus en plus. Donc, il faut être sage, il faut aller à la lumière de Jésus-Christ, parce qu'il va nous conduire comment bien le faire, afin que nous puissions aussi avoir son temps pour lui. Il y a une autre chose que j'ai. Ici, je voudrais dire par rapport au monde. C'est que des fois, nous avons des besoins urgents dans le monde, mais j'ai vu que quand nos besoins sont comblés à un moment donné, ça peut aussi affecter notre relation avec le Seigneur. Je lisais ici, je lisais dans Deutéronome 8, si vous pouvez écrire quelque part Deutéronome, à chapitre 8, à partir du verset 12 comme ça, vous allez voir, c'est quand le peuple de Dieu était encore dans le désert. Ils étaient dans le désert, mais ils approchaient Canaan. Ils approchaient la terre promise. Et c'est là que Dieu a commencé à leur donner les lois qui doivent quand même respecter une fois rendues sur la terre promise. Il va leur dire, le pays dans lequel je vous amène, il y a plein de choses. Il y a du lait et du miel, comme on dit. Donc, c'est une terre qui est vraiment fertile. Vous allez cultiver, vous allez élever, tout va pousser, tout va aller bien. Vous allez pouvoir aussi construire parce que vous ne serez plus dans le désert. Donc, ils étaient dans le désert. Donc, tout ce que le Seigneur leur disait, c'était comme si il leur donnait une image de ce qui les attend en avant, de ce qui les attend dans le pays. Ils étaient dans le besoin. Là, ils acceptaient facilement, ils étaient contents, joyeux. Oui, on va le faire, oui, on va le faire, oui, on va le faire. Mais quand tu les accompagnes jusqu'à la terre promise, c'est là que tu commences à voir comment ils se rebellent. Ils n'avaient pas, dans le désert, ils n'avaient pas d'habits. Ils portaient seulement une robe qui ne vieillissait pas. Les sandales qui ne vieillissaient pas. Ça grandissait au fur et à mesure avec le corps de la personne. Ils n'avaient pas vraiment beaucoup de besoins. Ils avaient des besoins, mais ils n'avaient pas moyen de les combler. Mais une fois que les besoins ont été comblés, ça, je dirais, ça diminuait les relations avec le Seigneur. C'est là qu'ils ont commencé à avoir des problèmes avec Dieu. Je peux faire une comparaison avec ce qui nous arrive aussi. Des fois, nous prions. Oui, nous prions, nous avons des besoins dans ce monde. Et Dieu répond. Mais pendant que peut-être ce serait un moment de maintenant de venir remercier, d'être plus connecté, mais ces choses-là nous éloignent de temps en temps. Dieu, ça nous éloigne Dieu. Donc, ce qui s'est arrivé au peuple d'Israël, c'est la même chose ce qui nous arrive. Ça nous éloigne de temps en temps parce qu'on n'est plus dans le besoin. On n'est plus dans le besoin. Je me rappelle quelque chose il y a si longtemps, quand je venais ici, quand je préparais mon mariage ici, j'ai mon parrain, c'est ça? La personne qui t'accompagne, mon parrain, il est croyant, il était croyant, mais oui, il est croyant aussi. Mais à un moment donné, on était dans la réunion pour organiser des choses. Et puis, une personne qui était avec nous dit à la fin, donc il faut prier, il faut vraiment prier pour que Dieu nous donne. Donc, que tu trouves la voiture, que tout se passe bien, que tu trouves la salle. Et puis, pareil, tu dis, prier pourquoi? Est-ce que tu n'as pas l'argent? Il a demandé si je n'avais pas l'argent. J'ai dit, oui, j'ai l'argent. Tu as l'argent pour louer la salle? J'ai dit, oui. Tu as l'argent pour louer la voiture? J'ai dit, oui. Mais alors, pourquoi prier? Pourquoi prier alors que tu as... Va, 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 payer, va, payer. Donc, ça me rappelle ça parce que une fois que nous avons ce qu'on a besoin, donc la nécessité de nous adresser à Dieu, la nécessité de prier diminue. Ben, certaines personnes peuvent lui donner raison, mais pour nous, vous comprenez, c'est une tendance qui n'est pas sortie n'est pas bonne. Et ça nous arrive. Ça nous arrive surtout, nous qui sommes venus dans ces pays où il y a l'abondance. Donc, Satan utilise cette occasion pour diminuer vraiment nos moments de prière, nos moments d'être connectés avec le Seigneur. Parce que oui, avant peut-être, on pouvait prier pour que Dieu te donne la voiture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas dans la priorité. Et je dis, bon, ce n'est pas prier pour la voiture, ce n'est pas même important. Mais je dis des petites choses, parce que quand nous prions pour quelque chose, ce n'est pas seulement la chose là, mais ça, ce moment que tu as pris, tu t'es préparé pour être devant le Seigneur, ça fait quelque chose dans le monde aussi, dans le monde spirituel. Donc, j'ai traîné sur ce point parce que c'est ça qui nous arrive dans ce monde, dans ces pays riches où nous avons tout, mais ce tout-là nous éloigne de temps en temps, de plus en plus, le Seigneur. Et c'est ça qu'il faut combattre pour quand même garder cette communion, cette connectivité avec le Seigneur, pour que notre arme soit toujours prêt, soit toujours là. Alors, pour terminer, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai reformulé 4 points. Sachant toutes les risques de l'ennemi pour nous empêcher de prier, voici, on peut trouver beaucoup de choses, mais la chose que j'ai vu importante, nous devons nous confier à Jésus-Christ, le grand vainqueur. Si nous lisons Hébreux, quelqu'un qui est peut-être qui va trouver Hébreux facilement, et peut me lire Hébreux, chapitre 4, versets 15 à 16. J'aimerais qu'on lise ce verset pour comprendre ce que ça dit. Hébreux, chapitre 4, verset. Oui.
Hébreux 4, à partir du verset 15. Ouais. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans connaître de péché. Verset 16. Approchons-nous donc du trône de Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là où Dieu nous accorde sa bonté, il nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment.
Amen. Amen. Ça dit, oui, même si la chair est faible, nous croyons en un Dieu tout-puissant. Nous croyons en un Dieu victorieux. Il dit, en bref, de nous confier à lui parce qu'il va nous rendre aussi victorieux. Amen. Deuxième point, il faut être prêt à combattre. Jacques le dit, si quelqu'un peut nous lire ce petit verset, je vais le lire. Jacques 1, Nicole, tu vas nous lire. Ok.
Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment.
Amen. Alors, comprenez, tous qui sont prêts, tous qui sont prêts à aller, à avancer, à rester tout près de Dieu, tout près de Jésus, dans la prière, ils recevront une couronne. C'est la promesse. Et Dieu ne ment pas. Il exauce ce qu'il a promis. Alors, le dernier point que j'ai vu important, nous devons porter toutes les armes. C'est Éphésiens 6, je vais le lire. 6, 10, 11, il est écrit, pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous, verset 11, revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toute ruse du diable. Amen. Voilà ce que nous pouvons garder. Nous avons l'ennemi qui veut toujours nous arracher notre âme qui est la prière, mais nous avons aussi d'autres moyens de recombattre et de garder notre âme et de garder, de rester victorieux avec Jésus. Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Prions. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce moment, pour cette occasion que tu nous as offerte. Seigneur, pour partager encore, pour nous parler à travers ta parole. Seigneur, tu nous as beaucoup dit, mais nous te prions, nous te demandons, Seigneur, que tu nous accompagnes aussi dans la mise en pratique. Parce que oui, la théorie est compréhensible, oui. On comprend tous, mais quand c'est le temps de pratiquer, nous avons besoin, Seigneur, de ton aide. Nous avons besoin de toi pour que tu nous prennes la main, pour que, Seigneur, nous te suivons et que nous puissions vaincre l'ennemi. Merci, Seigneur. Merci que tu vas bénir ton peuple et que le Saint-Esprit va continuer aussi à enseigner, à nous apprendre beaucoup plus sur cette parole, sur ce message. Nous te prions ainsi dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.